Alors que Dieu vous bénisse, vous êtes tous là et nous allons ensemble parler d'idéal. Et voilà, je vous inclus vraiment toutes et tous dans ce message qui va être apporté, hein, que vous soyez occasionnels ou que vous soyez réguliers. Voilà, je ne fais pas de distinction, nous sommes tous réunis avec ces paroles de Jésus, dans Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voilà ce que Jésus nous affirme. Nous sommes assemblés, nous sommes accordés, nous croyons au Père de Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. C'est le nom de Jésus qui nous rassemble. Alors, Jésus est au milieu de nous pour nous accorder ce que nous demandons. Je voudrais que chacun d'entre vous soit convaincu de cela. Le peuple d'Israël connaissait le Dieu des cieux, puisque Jésus parle ici de mon Père qui est dans les cieux. Il connaissait le Dieu des cieux et il avait fait une expérience effrayante avec le Dieu des cieux. Mais cette expérience effrayante s'était conclue par une bénédiction. Si nous allons dans l'Exode, une promesse de bénédiction. Exode au chapitre 20, nous lisons les versets 18 à 24. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent, des dieux d'or, pour me les associer, vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » J'arrête ici, c'est tout le commencement de la loi. Ce passage que je vous ai lu vient après la proclamation des 10 commandements. Voilà ce qui s'est produit à ce temps-là, au moment de la révélation de Dieu, et qui a nécessité un intermédiaire, un médiateur, un intercesseur entre Dieu et le peuple, ce que le peuple lui-même a demandé en constatant la puissance et la gloire de Dieu qui se manifestait sur la montagne à travers le feu. Le peuple a dit, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Dieu a accédé à cette demande. Et c'est finalement Moïse, donc, qui s'approche de la nuée où était Dieu. Et plus loin, nous voyons que Moïse redescendait de la montagne et parlait au peuple de la part de Dieu. Il y a donc, dès le commencement, pour cette révélation de Dieu au peuple, un médiateur. Impossible à l'homme de rencontrer le Dieu vivant, le Dieu des cieux, de façon directe. Il lui faut un médiateur. C'est le premier point. Et le second point que nous voyons, c'est qu'il y a un besoin d'un autel pour les sacrifices. Oh, pas un autel qui a beaucoup d'apparence, puisque tu m'élèveras un autel de terre et sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Et c'est là que Dieu dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voilà que Dieu se montre et qu'au lieu où il y a l'autel du sacrifice, il y a le nom de Dieu et il y a la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas le jugement de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu. Oui, il y a la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu à travers une bénédiction qui est promise. Un autel des sacrifices. Il y a deux sortes de sacrifices qui sont mentionnés ici, les holocaustes et les actions de grâce. Les holocaustes, c'est pour la consécration à Dieu, et les actions de grâce, eh bien, c'est pour reconnaître que toute provision, toute chose nous vient de Dieu. Les actions de grâce qui étaient faites, les bœufs, les brebis qui étaient amenés en sacrifice d'action de grâce étaient consommés par ceux qui les offraient. L'holocauste n'était pas consommé parce qu'il était consumé totalement. Mais sinon, les autres sacrifices étaient consommés en partie par le sacrificateur et en partie par le fidèle lui-même. Donc, il amenait à Dieu sa reconnaissance, son action de grâce pour ce qu'il recevait de Dieu. Et là, il y avait la bénédiction. Il y avait la grâce de Dieu qui pouvait se manifester. C'est donc le nom de Dieu qui est rappelé et sa présence est alors une bénédiction. C'est ce que Jésus nous dit dans le passage que nous avons lu, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux, et donc j'accorde à celui qui demande, à ceux qui s'accordent aussi pour demander, j'accorde ce qui est demandé au Père qui est dans les cieux. Le nom de Jésus reprend le nom de Dieu qui nous a parlé par lui. Et Jésus s'est offert à Dieu pour nous. Dans le passage avec Moïse, Moïse parle à Dieu et parle au peuple de la part de Dieu, et le peuple offre un sacrifice. Jésus-Christ est venu comme intermédiaire, comme médiateur entre Dieu et les hommes. Il nous a parlé de la part de Dieu. Il parle au Père pour nous. Il intercède pour nous. Et aussi, il s'offre en sacrifice pour nous. Il est notre sacrifice. Et l'autel sur lequel Jésus s'est offert en sacrifice, c'est la croix du calvaire. C'est pourquoi par le nom de Jésus, Dieu est au milieu de nous pour nous bénir et nous exaucer. Chacun d'entre nous. Exaucer parce que offrir le sacrifice personnellement, c'est aussi demander. Lorsque nous offrons à Dieu, nous lui rendons grâce et nous lui demandons sa bénédiction. Eh bien, Dieu nous exauce à partir du moment où cette prière est faite dans le nom de Jésus. Mais pas seulement de façon personnelle, ensemble, comme une maison unie. Nous ne sommes pas seuls pour demander à Dieu. Nous nous accordons là où deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque. Parce que nous formons un corps, nous formons une maison. Lorsque, après toute la période dans le désert, il y a eu l'entrée dans le pays promis, et un temple a été bâti là où se réalisaient les sacrifices, là où la présence de Dieu était à l'intérieur de ce temple, où la gloire de Dieu était dans le temple et où les sacrifices étaient offerts, nous retrouvons les deux éléments. Eh bien, voici la prière que... Non, lorsque la réponse à la prière de Salomon qui vient de dédier ce temple à Dieu. Et là, Dieu lui dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et là, toujours, j'aurai mes yeux et mon cœur. Voilà ce que Dieu annonce. Il sanctifie cette maison. Et il y aura ses yeux et son cœur. Non seulement les yeux de Dieu, mais le cœur de Dieu. Eh bien, le cœur de Dieu est avec nous ce matin, alors que nous sommes réunis au nom de Jésus, pour former la maison de Dieu, pour former le lieu où il est reconnu, pour former le lieu où nous lui adressons les prières en reconnaissance du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Le cœur de Dieu est avec nous ce matin, non à cause du lieu qui serait saint en lui-même, mais à cause de l'accord que nous faisons ensemble dans le nom de Jésus. Nous nous sommes mis d'accord ensemble ce matin pour nous rassembler au nom de Jésus. Alors, non seulement les yeux de Dieu sont sur nous, mais le cœur de Dieu est avec nous. Nous voyons dans un exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, où l'Église n'est pas dans un lieu particulier, mais où l'Église est réunie pour adresser de ferventes prières à Dieu, au chapitre 12 de ce livre des Actes des Apôtres, alors que Pierre vient d'être arrêté. Auparavant, Jacques a été mis à mort par Hérode. Et il est dit que donc Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, un des premiers apôtres. Alors ensuite, Pierre aussi est arrêté. Et donc, chapitre 12, verset 6, « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. » Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté, disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Juste au verset 5 auparavant, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Cette Église, elle n'est pas réunie dans un lieu particulier, elle est réunie dans une maison. Voilà, quelqu'un a accueilli les frères et sœurs de l'Assemblée chrétienne et ils se sont mis à intercéder ensemble. Ils se sont accordés pour demander que Dieu libère son serviteur. Et il l'a fait dans ces temps-là particuliers. Mais enfin, pourquoi Dieu ne ferait-il pas de telles choses encore aujourd'hui, s'il les a faites hier? Ils ont retrouvé le serviteur de Dieu par ce miracle de la délivrance, des portes qui se sont ouvertes, des chaînes qui sont tombées. Et Pierre a pu ainsi continuer à paître le troupeau du Seigneur. Mes yeux et mon cœur sont là où sont assemblés mes enfants, réunis au nom de Jésus, dit le Seigneur. Mon Père qui est dans les cieux. Dans le prophète Michée, après les errances du peuple qui avait oublié son Dieu, nous lisons ceci. Donc chapitre 1 de ce prophète, versets 2 à 4. Écoutez-vous tous, peuple, sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau coule sur une pente. Voyons ici l'Éternel qui sort de sa demeure. On retrouve le contexte du prophète Moïse avec Dieu qui descendait sur la montagne et cela effrayait le peuple. Et ici au verset 4, sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme la cire devant le feu. C'est bien une manifestation du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui maîtrise voilà, tous les aspects de la puissance de l'univers. Mais précédemment, avant de sortir, Dieu se trouve dans sa demeure. Et sa demeure est appelée le palais de sa sainteté. Voilà que Dieu, dans le ciel, réside dans le palais de sa sainteté. Et de là, Dieu nous voit, nous entend, nous parle et nous exauce. Depuis le palais de sa sainteté, afin que mon Père qui est dans les cieux vous exauce, dit Jésus. Et ce Dieu qui se trouve dans le palais de sa sainteté, nous le voyons sortir. Eh bien, Dieu est sorti une première fois du palais de sa sainteté. Et non seulement il est sorti, mais nous voyons qu'il est descendu. Dieu est sorti une première fois pour faire grâce aux pécheurs. Et nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, ces paroles. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Voilà la première fois où Dieu est sorti de sa demeure. Dieu est sorti de sa demeure pour descendre parmi nous, pour que le médiateur puisse venir nous parler, Jésus-Christ. Et nous ayant parlé de la part de Dieu, il a offert le sacrifice, il a offert sa vie en sacrifice sur cette croix. Et là, il est descendu encore plus bas. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'était le moment où Jésus-Christ sortait du sein de Dieu pour offrir la réconciliation à l'humanité perdue. C'était le moment où sa sainteté se manifestait en grâce, où Dieu sauvait le pécheur. Et il y avait les deux éléments absolument nécessaires pour pouvoir rencontrer notre Dieu, la médiation et le sacrifice. Et Jésus a accompli les deux. Il est sorti de Dieu, il a parlé de la part de Dieu, il a donné sa vie de la part de Dieu, il est descendu, il a accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et les hommes. De là, Dieu l'a ressuscité et Jésus est retourné dans le palais de la sainteté. Avec cette différence avec auparavant, c'est que maintenant, par la foi en Jésus-Christ, par le nom de Jésus invoqué au milieu de nous, nous sommes, nous, en relation avec Dieu. Mais d'après le prophète Michée, Dieu va sortir une seconde fois. Mais cette fois-ci, il va sortir sur les hauteurs. Il marche sur les hauteurs de la terre. Il ne va pas ressortir à nouveau pour descendre et aller dans les lieux inférieurs de la terre. Il va sortir pour rester sur les hauteurs. Et sur les hauteurs, il est là pour juger le reste du peuple incrédule, mais aussi pour attirer à lui ceux qui auront cru. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, nous pouvons lire au verset 27 et 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors, voudrais vous dire, frères et sœurs, amis, laissez-vous sanctifier par le Père et le Fils. Laissez-vous rejoindre par la sainteté de Dieu. Dieu habite le palais de sa sainteté. Cette sainteté, il veut vous l'attribuer. Laissez-vous être mis à part de ce monde comme Dieu est à part dans le ciel. Jésus l'a rendu possible. Nous pouvons tous connaître Dieu personnellement et recevoir de lui la part de sainteté. Or, qu'est-ce que la sainteté de Dieu ? Eh bien, je vais dire tout simplement, en reprenant deux références dans l'apôtre Jean, que la sainteté de Dieu, c'est l'alliance de la lumière et de l'amour. Il est écrit dans cette épître, au chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et un peu plus loin, dans la même épître, chapitre 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un peu plus loin encore, verset 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quand il est question de ce que Dieu est, il n'y a que ces deux définitions. Dieu est lumière, Dieu est amour. Voilà la sainteté de Dieu. Et pour la révélation de Dieu dans le monde, les deux travaillent toujours ensemble. Pour la création, pour la loi, pour Jésus-Christ, c'est à la fois la lumière et l'amour qui sont à l'œuvre. Et là où il y a la lumière et l'amour, il y a Dieu, il y a la vie, il y a la joie. Autrement, la lumière ne serait qu'un feu qui dévore et l'amour ne serait que souffrance. Le premier acte de Dieu lors de la création, ça a été de faire briller la lumière au sein des ténèbres. Sinon, l'amour que Dieu voulait manifester, s'il avait été envoyé dans les ténèbres, l'amour aurait été sous l'oppression des ténèbres. Un amour qui ne peut pas s'épanouir dans la lumière, c'est un amour qui n'est que souffrance. Aujourd'hui, dans notre vie personnelle, dans votre vie personnelle, ou dans vos relations, vous avez besoin et de la lumière et de l'amour. Venir à la sainteté de Dieu, accepter la sainteté de Dieu, c'est recevoir sa lumière et son amour. Combien dans le monde d'aujourd'hui on voudrait l'amour sans la lumière? Et où, en définitive, on ne récolte que souffrance. Christ est l'amour de Dieu qui a accepté de passer par les ténèbres. Lorsque Jésus était sur la croix. Parce que le monde a été rejoint par les ténèbres, parce que cette lumière de Dieu ne l'a pas gardée. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, ce sont bien les ténèbres qui sont venues sur la terre. Et lorsque l'expiation pour le péché a été accomplie, lorsque Christ a été mis au tombeau, à ce moment-là, la lumière de Dieu a brillé à nouveau dans la vie de résurrection. Et par la lumière, par la vie de résurrection, alors l'amour de Dieu a resplendi à nouveau dans la forme de la joie. Et pour les apôtres et pour tous les chrétiens qui ont vécu ce moment, c'était la délivrance. L'amour n'était plus sous l'oppression des ténèbres, l'amour retrouvait la lumière et l'amour pouvait ainsi donner la vie. Alors, cet amour-là, cette lumière-là, cette sainteté de Dieu, est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous la recevez? C'est là qu'est votre destin, votre avenir éternel, dans la lumière et l'amour de Dieu. Amen.